Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La paix, la réconciliation et le développement par la culture, est-ce possible? Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, le Grand Dialogue de Studio Tamani est délocalisé à l'hôtel Salam où se tient depuis ce jeudi la 24e édition du Forum de Bamako. Durant trois jours, les participants vont échanger sur 8 thématiques liées à la culture, la réconciliation et le développement. En quoi la culture peut-elle être un facteur de rassemblement? Quel apport de la culture sur la réconciliation du tissu social? Le Grand Dialogue s'intéresse à ces questions et bien d'autres dans le cadre de la 24e édition du Forum de Bamako. Nos invités, Abdoulaye Kemogo, panéliste venu du Niger, Pape Mamadou Kabo, panéliste venu du Sénégal, et Nakana Diakité, consultante en diplomatie culturelle. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Vous connaissez sur 85 radios et 3 télévisions sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer avec vous, Madame Nakana Diakité. Quelle appréciation faites-vous de l'initiative du Forum de Bamako?
Merci d'abord pour cette invitation et merci pour cette initiative. L'on dit qu'en amont de l'action, il y a la pensée et la volonté. Et le Forum de Bamako, à mon avis, se situe dans ces deux préliminaires indispensables. C'est un laboratoire, une expérimentation d'une pensée qui va nourrir la volonté sur des sujets éminemment importants pour mieux agir. Donc il ne s'agit pas que d'idées, il ne s'agit pas que de partage, de paroles. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ces idées ont été mûrement réfléchies. Il s'agit d'un partage qui a pour but de susciter une volonté d'agir au niveau des pouvoirs publics et bien au-delà. Donc ce forum sert à ça et c'est une excellente initiative, à mon sens.
Ce forum met l'accent sur la réconciliation, la paix à travers la culture. Pourquoi ce choix selon vous?
Ce n'est pas qu'un choix. D'abord, c'est un choix d'actualité, mais c'est un choix de devenir et c'est un choix du futur. Les mutations que le monde connaît actuellement, les mutations que nos pays connaissent actuellement, pas que le Mali, tous les pays frontaliers, nécessitent de se pencher sur ces questions-là pour nous réunifier et pour revenir à ce vivre ensemble que nous avons connu des millénaires durant. Donc, je dirais que ce qui se passe actuellement est accidentel, c'est-à-dire qu'à l'échelle du temps, il est temporaire et nous travaillons sur ces questions-là pour l'intemporel. Donc la réconciliation, la paix, le développement doivent être des thèmes intemporels et donc qui sont essentiels et actuellement et plus tard et pour tous.
Abdoulaye Kemogo, le forum de Bamako, vous êtes venu du Niger pour participer à cette 24e édition du forum de Bamako. Quelle est selon vous la portée de ce forum qui vous a déplacé du Niger au Mali?
Bonsoir et merci de m'avoir vraiment invité sur le plateau du grand dialogue. Et comme vous l'avez dit, je suis à Bamako à l'initiative du Forum de Bamako qui m'a invité justement pour le forum sur la culture, la réconciliation, la paix. Culture, réconciliation, paix et développement. Donc vous voyez très bien ces trois thématiques et c'est d'une importance très très capitale. Parce que comment aller de la culture pour promouvoir la réconciliation, la paix et le développement? Justement, c'est à tous ces défis aujourd'hui que nous sommes confrontés dans nos pays. Et vous savez, si très honnêtement, dans tous ces pays, dans nos pays, on s'est basé sur la culture pour essayer de consolider la paix, le développement, on n'allait pas arriver dans la situation dans laquelle on est en train de vivre, notamment au niveau de l'AS. Je le dis très clairement. Puisque cette culture qui est là, ce sont nos valeurs. on aurait dû se reposer sur nos valeurs au lieu d'aller chercher une culture ailleurs et qu'on a expérimenté pendant plus de 100 ans. Aujourd'hui, nos pays-là, depuis l'indépendance, ça fait plus de 100 ans. Mais plus de 100 ans, pour quel résultat? Pour quel résultat? Parce que vous avez vu, c'est l'éternel recommencement pratiquement dans les États du Sahel, il faut le dire, hein, avec des séries de coups d'État et tout, mais de coups d'État salutaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là, on est tous d'accord que nous sommes dans la refondation de ces trois pays. Maintenant, pour revenir véritablement à nos cultures, à nos valeurs. Et je suis persuadé, à partir de cet instant où on revient à nos cultures et nos valeurs, c'est sûr que la paix, la réconciliation et le développement, ça va aller. Ce qui nous a manqué beaucoup de temps. Donc, d'où l'importance de ce forum de Bamako sur cette thématique.
Voilà. Nous sommes à la 24e édition du forum de Bamako. Est-ce que vous constatez de l'engouement autour de ce forum de Bamako?
Bon, moi, j'avoue, moi, c'est la première fois que je viens d'assister à ce forum. C'est vrai, on est à la 24e édition, mais déjà, moi, ce que j'ai constaté depuis mon arrivée à Bamako jusqu'aujourd'hui à l'ouverture des travaux, on a vu vraiment un certain engouement qui est là. Les gens sont d'accord sur la thématique parce qu'on sait qu'il n'y a que cette culture qui peut nous amener à régler les problèmes de réconciliation de paix qu'on a connus. Le Mali, comme le Niger, on a connu des rébellions dans nos pays. Aujourd'hui, on est en train de vivre cette histoire de terrorisme qu'il y a et au Mali et au Burkina. Mais tout ça, les gens qui sont dans le terrorisme, c'est quand même souvent, ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Si aujourd'hui, ces enfants-là ont véritablement assimilé notre culture, comment ces enfants, en seul instant, vont se laisser embobiner par d'autres qui viennent d'ailleurs pour leur dire, il faut attaquer vos propres frères, il faut tuer vos propres frères, c'est pas normal. Donc, ce qui est sûr, cette thématique, elle est d'importance capitale, comme je l'ai dit. Et un engouement, il est là parce qu'on a vu les jeunes. J'ai vu à l'intérieur de la salle de conférence, pratiquement, c'est des jeunes. C'est beaucoup plus de jeunes qui sont là pour écouter et qui ont pris part à ce forum. Donc, ça veut dire que, sincèrement, si on part du principe de ces gens-là, peut-être que le message va passer et demain, on n'aura plus à être confronté à ces difficultés.
D'accord. Pape Mamadou Kabo, vous êtes venu du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a motivé à croire à ce forum de Bamako?
C'est d'abord le partage. Le partage d'expériences. D'accord. Ma sœur du Mali, mon frère du Niger et moi du Sénégal, nous avons des expériences différentes les uns des autres par rapport à notre vécu. Notre vécu au quotidien et notre vécu par rapport à nos formations académiques et nos vécus par rapport au voyage qu'on a eu à faire dans la vie. La culture comme prétexte pour cimenter les relations. La culture comme prétexte pour renouer les relations qui se sont distendues. La culture comme prétexte pour nouer des relations nouvelles. Justement, pour se réconcilier d'abord avec nous-mêmes, en tant qu'Africains, parce que, comme l'a dit tout de suite mon frère, nous avons répondu à l'appel de certaines sirènes qui nous avaient fait croire à des choses qui, aujourd'hui, on se rend compte que c'était des chimères. Nous avons couru après pendant plusieurs décennies, et cela ne nous a pas permis de nous développer. Si on prend en compte les exemples des pays de l'Asie, par exemple, qui étaient au même niveau de développement que nous, on s'aperçoit que nous, ayant abandonné des éléments de notre culture pour épouser d'autres cultures ou une autre culture qui n'était pas la nôtre, nous nous sommes éloignés du véritable chemin qui aurait pu faire le développement du continent beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de regret à avoir. Une initiative comme celle-là, que je loue, et je salue d'ailleurs la constance de Abdullah Koulibaly qui organise cette fois encore la 24e édition. Et les autorités du Mali, malgré les situations que l'on a pu vivre ici, des gouvernements qui changent, des majorités qui changent, des régimes même militaires qui changent, et malgré tout, les gens restent ancrés en leur culture. C'est parce qu'ils savent que c'est un véritable vecteur qui peut permettre justement cette réconciliation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord avec nous-mêmes, puis avec les voisins, puis avec ceux des autres continents ou d'ailleurs. Donc un forum comme celui-ci, c'est une excellente initiative et je pense que c'est le lieu de remercier les initiateurs de ce forum et vous-même vous remercier pour ce plateau que vous organisez qui va permettre de relayer ce qui est en train de se passer ici.
Quels sont les grands événements prévus au cours de ce forum?
Il est prévu différents panels. Donc moi, j'interviens sur le panel qui va évoquer la question de l'industrie culturelle, d'accord, et la création d'emplois, d'accord. J'interviendrai également sur l'aspect du financement de la culture. Parce qu'en fait, mon ambition, c'est d'arriver à montrer que la culture ne doit pas être juste de l'amusement. On parle d'industrie culturelle. Une industrie, elle fabrique. Donc aujourd'hui, il s'agit de se questionner pour voir si véritablement nous sommes des industriels de la culture, pas dans le sens de produire à l'infini ou des quantités astronomiques, mais de mettre sur le marché un produit culturel que nous consommerons d'abord nous-mêmes en tant qu'Africains, mais que nous mettrons sur le marché et qui sera consommé par d'autres acteurs ou d'autres demandeurs de culture. Parce que la culture qui est africaine, elle est diverse et extrêmement riche, comme la couleur du tapis qu'évoque Amadou Ampateba, qui a très souvent été cité aujourd'hui lors de la séance inaugurale.
Vous êtes malienne, vous êtes consultante en diplomatie culturelle. En quoi ce forum est-il important pour la culture?
Eh bien, je dirais que la culture est un remède puissant à différents niveaux. Un remède au conflit, un remède dans la gestion des conflits, un remède qui peut servir d'antichambre à l'économie et au développement, et un remède à la construction de l'être. Je m'explique. Je vais essayer de donner une expression en bambara que je traduirai pour mes collègues. Yiridon mogodon yiridon de nyogonte, c'est-à-dire connaître la connaissance des plantes, qui est le vivant immobile. La connaissance des gens est très bien, mais il n'y a rien de mieux que la connaissance de soi. Et peut-être nous sommes-nous perdus en chemin, comme le disait mon collègue du Niger. Et c'est pour s'être perdu en chemin que nous n'avons pas pu trouver, puiser les solutions qui ont fonctionné auparavant. Et parce qu'il y a eu une rupture de transmission. Parce que des solutions existaient auparavant dans nos us et coutumes. La culture avait produit des remèdes, des modes de résolution de conflits entre nos communautés. Cela existe. Mais cela s'est peut-être un peu perdu en chemin. Nous y revenons. La culture comme antichambre de l'économie, nous connaissons tous la puissance actuellement du soft power qu'utilisent les uns et les autres. Nous avons le vivier nécessaire pour utiliser ce soft power, pour mettre en place une stratégie de soft power qui permette, d'impacter les opinions. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des conquêtes de territoire, mais dans des conquêtes de zones d'influence. Et tous les États, tous les pays, à ce niveau-là, sont à égalité. Tout dépend de comment utiliser ces ressources. Nous parlons beaucoup sur le continent de ressources minières, de ressources autres, mais nous ne parlons jamais de la plus grande ressource que nous avons, qui sont les ressources culturelles inexploitées. Je crois que ce forum permettra d'étayer tout cela, de creuser tout cela et d'essayer de comprendre comment est-ce que nous pouvons utiliser la culture pour asseoir notre positionnement sur la scène internationale, comment utiliser la culture pour peser sur les décisions. Parce que nous avons à apporter au monde et que l'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Et le Mali, sur le continent, est éminemment important, excusez-moi, mais voilà, sur le plan historique. Voilà, il y a le Mali aujourd'hui et le Mali historique. Et dans le Mali historique, nous en sommes tous issus. Donc puisons dans ce Mali historique que nous avons en commun pour nous construire, pour bâtir, pour transmettre et pour peser sur les décisions parce que nous valons autant que les autres.
Comment alors la culture peut avoir un apport dans la reconstruction du tissu social et du rétablissement de la paix?
Nous allons encore venir à ce qui nous a été enseigné. Quelques exemples. Alors je vais le dire, Teranga, par exemple, Snanguya, Maya, Djatgia. Combien de mots, alors ça ce sont des mots, des concepts en bambara, mais il y en a en sonraï, il y en a en tamashek, Zamalaya, il y en a en peul. Nous avons eu des administrations, nous avons eu des modes de gestion et d'organisation de relations entre les communautés qui existent. C'est parce que ce socle s'est effrité. Donc il suffit, à mon avis, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer actuellement, d'aller chercher ce qui a fonctionné. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui vient de l'extérieur, mais surtout d'aller chercher ce qui a fonctionné durant tant de temps. Et en cherchant ce qui a fonctionné dans nos us et coutumes, dans nos traditions, en essayant de reconnecter avec cette transmission, alors je pense qu'on pourra y arriver. Et à ce moment-là, on va ajouter ce qui fonctionne ailleurs, mais pas ce qui ne fonctionne pas. Mais ça sera en plus, alors que pour l'instant, jusqu'à présent ou pendant longtemps, nous avons réagi un petit peu en soustraction. Nous ne sommes pas nous-mêmes et nous allons prendre des solutions d'autrui. Trouvons donc ces solutions dans notre culture et ajoutons les solutions venant d'ailleurs, parce que c'est une intelligence collective.
Nakana a parlé de culture qui peut rassembler. En quoi cette culture peut-elle rassembler le peuple?
Mais on a vu dans les terroirs. Quand souvent il y a des événements justement culturels, tout le monde est là, du plus petit au vieux, hein, tout le monde est là et les gens partagent l'expérience. Donc en ce sens, je pense bien que la culture est bien là pour rassembler les gens, parce que ça permet de connaître ce qui s'est passé avant, maintenant et après. Donc en ce sens, quand les gens sont convaincus ou au courant de voilà comment les choses ont été réglées, donc je pense bien que ça va continuer et ça va éviter des problèmes. Si on a des problèmes, c'est justement parce que les gens ont oublié le passé. Or, on ne peut pas construire l'avenir sans le passé. Il faut toujours aller du passé pour construire l'avenir. Et c'est ce qui a beaucoup manqué et c'est ce qui a créé toutes les difficultés et les problèmes que nous sommes en train de rencontrer et qu'on est en train de rattraper aujourd'hui, parce qu'on a tout expérimenté. Tout expérimenté, je le dis, on a tout expérimenté dans le pays, on a vu que ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter, réfléchir pourquoi ça ne marche pas et comment il faut faire pour que ça marche. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique au niveau, en tout cas, des États de l'AS. Parce que nous vivons les mêmes réalités culturelles et tout. Si on regarde, c'est pratiquement la même chose. Gao est là et Madame Gao est là avec le Niger, c'est la même chose. Fada avec le Burkina et tout, c'est la même chose. Donc, on a les mêmes réalités. Donc, et heureusement que Dieu a fait en sorte aujourd'hui qu'on se tous se retrouve ensemble et qu'on est arrivé à la même conclusion que ça ne va pas, il faut s'arrêter. Et si ça ne va pas, c'est parce que, je le dis, on a rejeté notre culture. On est allé coller une autre culture qui ne s'y est pas. On a pris une démocratie. Quand tu prends la démocratie, ça vient d'où? Pour parler terre à terre, la démocratie, c'est pas nos valeurs, c'est copié d'ailleurs. C'est vrai qu'on faut aller à la démocratie, mais nous-mêmes, on peut fabriquer nos propres textes pour que cette démocratie qui est là, que nous puissions la conduire normalement. Mais malheureusement, on est allé copier une démocratie qui ne reflète pas nos réalités, nos valeurs. Et voilà le résultat. À chaque fois, on gère le pays pendant un certain nombre de temps. On cogne la tête contre le mur, on revient en arrière. Mais ça ne peut pas continuer. Il faut maintenant aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai dit la culture, qu'on le veut ou pas, c'est le vecteur qui va nous permettre d'aller de l'avant. Quand tous ces jeunes qui sont là vont savoir ce que les grands-parents et leurs arrière-grands-parents ont fait, qu'est-ce que les pays-là ont été par le passé. Mais quand tu sais ça, comment tu vas commettre des erreurs pour que ça ne marche pas? Donc, la culture, comme je le dis, vraiment, c'est un vecteur de rassemblement. Et il n'y a que cette culture qui peut rassembler les peuples un peu partout.
En quoi cette culture peut-elle rassembler tout ce peuple et nous ramener à nos valeurs initiales?
Mais parce qu'on va savoir ce que nous sommes. Il faut d'abord savoir qui tu es pour avancer. Quand tu ne sais même pas d'où tu viens, qui tu es, comment tu peux avancer? Mais à partir du moment où tu sais d'où tu viens, qui tu es, c'est comme ça qu'il va te permettre d'avancer. Et c'est ça qui a manqué. Les gens, ils sont là, ils ne savent même pas d'où ils viennent.
Ils ne savent pas qui ils sont. Tu vas demander ça, même pas d'où ils viennent, ils ne savent pas qui ils sont. Et comment, dans une situation comme ça, tu veux que les choses avancent? Ça ne peut pas avancer. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à tout le monde. Ça, il faut le dire. Parce que, un, c'est vrai, on a des dirigeants qui sont là. Mais il n'y a pas que la faute des dirigeants, il y a aussi les populations. Parce qu'il faut que souvent, les gens, quand même, il y a l'intelligence qui est là, il y a l'éducation qui est là. Parce que cette éducation-là, il ne faut pas seulement voir l'éducation occidentale. Même l'éducation familiale, elle a manqué dans nos États. Parce que si l'éducation est à la maison, comme on dit, a marché, on n'allait pas arriver dans cette situation. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde, il faut le dire. Que ce soit les dirigeants qui ont dirigé ces pays, que ce soit la population souvent qui sait et qui regarde et qui fait rien. Il faut que le pire arrive avant de réagir. Alors que vous savez que ça là, c'est une mauvaise voie qu'on est en train de suivre et vous n'avez pas le courage de dire arrêtez. Nous, dans le temps, c'est pas comme ça on fait. Voilà ce que nos parents ont fait. Voilà ce que nos grands-parents ont fait. On ferme les yeux. Donc c'est la responsabilité de tout le monde. Ça je le dis. Oui. Maintenant, comme tout le monde, tous on est conscients que ça ne va pas. Maintenant, on s'est tous retrouvés ensemble. Il faut aller de l'avant. Il faut reconstruire nos états. Voilà.
Est-ce que les pays africains, notamment le Mali, le Niger, le Sénégal, qui sont représentés sur ce plateau, profitent suffisamment de leur diversité culturelle pour rétablir la paix et la réconciliation et le développement?
Oui, bien évidemment, ce sont des ressorts sur lesquels on doit s'appuyer et rebondir pour justement rattraper tout ce qui...
On doit s'appuyer, mais est-ce qu'on s'appuie?
Que je suis en train de dire, on doit s'appuyer dessus pour rebondir. Et pourquoi on doit le faire? Parce que justement, nous ne l'avions pas suffisamment fait. C'est ce qu'il vient de dénoncer tout de suite. Nous ne l'avions pas suffisamment fait et c'est ce qui nous rend conscients de l'importance de l'organisation d'événements comme ce forum qui permet de parler de la culture, qui montre la culture comme un moyen ou un vecteur de réconciliation, qui montre également la culture comme un instrument de paix et qui offre la culture comme un moyen de développement ou d'accéder au développement. La culture, comme il le rappelait tout à l'heure, moi j'aime bien cette définition de l'histoire qui dit que l'histoire c'est l'étude du passé qui permet de comprendre le présent et de mieux appréhender l'avenir. Appréhender l'avenir, c'est ce que l'on appelle nous en économie et autres, c'est la prospective, se projeter. Voir ce que l'on veut devenir, ce que l'on souhaiterait être. La culture nous permet de pouvoir justement faire aujourd'hui une évaluation de notre situation par rapport à l'évolution du monde et nous projeter. Nécessairement, il s'agira de nous enraciner d'abord sur notre culture et de nous ouvrir à celle du monde. Ou, comme le suggère ma sœur tout à l'heure, où on pourra prendre ce qui nous enrichit et nous séparer des tares qu'a décrit tout à l'heure mon frère et qui a retardé le continent. La culture n'est pas seulement amusement. La culture, c'est éducation. La culture, c'est un état d'esprit. La culture, c'est un comportement. Elle a parlé de différents thèmes. Le sanaouya, ça existe, c'est le cousinage en plaisanterie. D'accord, chez nous, c'est extraordinaire. Je me souviens, j'étais encore stagiaire d'une banque que je nommerai pas, et je pars en Suisse avec mon patron. Avant de partir, l'assistant de son collègue avait un nom sénégalais comme moi. Il dit, mais vous connaissez? Je lui dis, non, je ne la connais pas. Et quand on arrive là-bas, puisque je connaissais son nom de famille, je lui balance une blague de ses... Elle s'appelle Diop, je lui balance une blague de Ndiayen, de quelqu'un qui porte le nom de Ndiaye. Ça a été un fou rire, on s'est embrassé, on s'est enlacé. Nos patrons, qui étaient de grands responsables de structures en Europe, ben, étaient étonnés. Ils disent, tu nous as dit que vous ne vous connaissiez pas. Non, on ne se connaissait pas. Et elle aussi, comme par hasard, son patron lui avait posé la question, est-ce que vous connaissez Pape? Il dit, c'est un nom qui sonne comme chez moi, mais je ne le connais pas. Alors donc, du coup, par le sanaouya, ce cousinage en plaisanterie, j'ai utilisé une expression qu'un cousin à lui en plaisanterie lui aurait lancé comme flèche. Dans d'autres cultures, ça aurait vexé, ça aurait fâché. Mais puisque on sait que c'est une blague, c'est un moyen pour ouvrir le dialogue. Vous voyez? Donc quand je dis un ressort sur lequel on s'appuie pour aller vers l'économie, nous étions venus pour parler d'argent. Et pourtant, c'est un instrument de culture qui a permis d'égayer d'abord la situation, et ça a permis d'étayer aussi nos discussions par la suite.
D'accord. Parmi les thèmes, parmi les différents panels qui seront animés au cours de ce forum, on peut retenir comme panel 1 ère civilisationnelle et état moderne en Afrique, pluralité de cultures, diversité des ethnies et unicité des citoyens. En français, facile, que vaut la portée de ce thème?
En fait, ici, c'est justement pour montrer cette diversité qu'on incarne ici, qui montre en fait qu'il y a certes des nuances, mais si on ne fait pas attention, ça peut constituer des fossés qui nous séparent. La culture de l'autre, je dois la découvrir, mais pas la critiquer négativement. Mon frère Alioun Sall en a parlé tout à l'heure, lors de la leçon inaugurale. La culture de l'autre, elle doit être curiosité. Elle doit être source d'enrichissement. La mienne doit être complétée par celle des autres, bonifiée ou aussi critiquée. Parce que ma culture n'a pas tout de positif. Parce que c'est une œuvre humaine. On peut la perfectionner, on peut l'améliorer, on peut justement tirer de la culture de l'autre ou des autres des éléments qui clarifient quelquefois notre culture. Par exemple, si vous prenez la charte du Mandé de Kourou Kanfouga, je ne vois pas un pays africain qui va vous dire non, j'en veux pas. Je ne crois pas. C'est un fondement, c'est un socle, c'est un ciment qui peut nous lier. Et pourtant, c'est bien de chez nous.
L'Afrique est-elle prête pour cette civilisation, cette ère civilisationnelle?
L'Afrique est-elle prête pour cette ère civilisationnelle? Mais l'Afrique l'a toujours été. Aujourd'hui, je dirais, est-ce que l'Afrique est-elle prête à modifier le champ lexical et à s'identifier elle-même et à ne pas se faire identifier, voilà, à se nommer elle-même. Mais l'ère civilisationnelle, les aires civilisationnelles en Afrique ont toujours existé. Maintenant, il est temps de les montrer, il est temps de les comprendre d'abord, il est temps de les étudier parce qu'il n'y en a pas assez. Hein. Nous ne sommes pas suffisamment étudiés. Et il est temps de les transmettre. Il est temps de parler de notre propre histoire et de ne pas la laisser se raconter par les autres.
Alors, comment doit-elle profiter de ce transfert civilisationnel pour asseoir une véritable paix en Afrique?
Encore une fois, je trouve que aujourd'hui l'Afrique a énormément d'atouts. Énormément. Comme l'a dit mon frère, nous sommes en pause. Cette pause permet de se rendre compte de nos acquis et nous permet, comme l'a dit mon frère, de savoir ce qui fonctionne ailleurs et ce qui ne fonctionne pas et de se dire qu'allons-nous fabriquer nous pour nous-mêmes. Et donc ce temps de pause et ce temps de réflexion nous permettra nécessairement de peaufiner notre culture, parce que c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant. On ne va pas continuer ce qui s'est passé. On va essayer de refonder quelque chose de nouveau qui corresponde aux besoins contemporains de notre génération, enfin des générations futures. Le Mali, comme le Sénégal et sans doute le Niger et tous les autres pays frontaliers doivent avoir une jeunesse où 50% doivent avoir moins de 15 ans ou 20 ans. C'est une population extrêmement jeune. La démographie et la géographie commandent. La géographie commande, c'est pour ça que le vivre ensemble est indispensable. Nous sommes obligés d'atténuer un petit peu les frontières parce que cette géographie commande, c'est de la géostratégie, et la démographie commande, nous sommes le futur du monde quand on regarde la démographie. Donc, à un moment donné, dans quelques années, ce qui va peser dans les décisions du monde, c'est le continent africain. Et donc, ce temps de pause et ce temps de réflexion permet de puiser justement dans notre histoire, de puiser dans ce qui a fonctionné, de puiser dans l'éducation, parce que mon frère l'a dit tout à l'heure, comment utiliser la culture, ça commence déjà par le béaba, en éduquant les enfants, tout simplement, en revenant à nos jeux éducatifs traditionnels, en revenant à nos rites initiatiques, pas comme ça se faisait nécessairement, mais l'Afrique est un lieu d'initiation, de construction de l'être, où on met l'être au centre des intérêts plutôt que l'avoir. Ça, c'est une valeur fondamentale partagée par tout le continent. On n'est pas normalement en Afrique dans une pensée de consommation, normalement. Donc il y a ces valeurs-là qui peuvent nous permettre de nous ancrer suffisamment et de proposer au monde une civilisation qui va aider les autres. Longtemps, on a dit oui, nous allons vous aider. Non, aujourd'hui, c'est à l'Afrique d'aider les autres. Mais on va dire oui, mais commencez par vous aider vous-même. Mais c'est en nous aidant nous-mêmes que nous allons aider le monde. Et c'est de notre responsabilité.
Ablaye Tiomago, est-il possible de revisiter notre propre histoire pour nous situer dans cette ère civilisationnelle?
Mais on n'a pas le choix. Si on veut réussir, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, j'ai dit, on n'a pas le choix. On est obligé, il n'y a pas d'autre choix que ça. Il faut aller revisiter effectivement cette histoire, cette culture pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que j'étais en train de dire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans les trois états de l'AES. Parce qu'on a vu les limites d'importer d'autres cultures dans nos pays. Maintenant, nécessairement, on va revenir à la case de départ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour aller au plus profond de nos cultures, savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous quittions cette situation-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il n'y a rien à faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est cette voie-là de revisiter ce qui s'est passé dans notre pays pour pouvoir avancer. Voilà.
Alors, comment adapter les mécanismes traditionnels, les mécanismes modernes qui existent aux nouveaux enjeux de la société moderne du Mali, du Niger?
Mais d'abord, il faut d'abord faire la base. Parce que si nous arrivons à faire la fondation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous ces trois États-là aujourd'hui, et tu le sais, on ne parle que de refondation. On ne parle que de refondation. Dans les trois États aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la refondation. Et c'est cette refondation-là qui va nous permettre de savoir d'abord baliser le terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire qui peut nous porter en haut? Et maintenant, en ce moment, comme Madame l'a dit tout à l'heure, et même mon ami du Sénégal l'a dit, on a toujours besoin effectivement d'autres cultures pour pouvoir avancer. Mais il faut d'abord cimenter ce que nous avons. Maintenant, avec les échanges et tout, si on trouve que l'autre culture, il y a quelque chose d'important qu'on peut prendre pour aller de l'avant, on le fera. Mais moi, j'insiste, il faut d'abord cimenter la base, il faut construire la base, il faut cette refondation avant d'aller chercher quoi que ce soit. Parce que la vérité, si on a échoué, parce que c'est un échec, il faut le dire dans tous ces états, c'est parce qu'on a tout laissé tomber, on est allé ailleurs chercher des solutions alors que nous avons aujourd'hui ces solutions ici. Et puisque maintenant on est arrivé à la conclusion que c'est d'abord ici qu'il faut chercher les solutions avant d'aller ailleurs, trouver quelque chose qui peut agrémenter ce que nous sommes en train de faire. Donc il faut le faire, voilà.
Le panel 2 de ce forum porte sur les cultures, conflits communautaires, extrémisme violent. Le rôle de la culture dans les conflits, dans le contexte de modernisation, quel rôle la culture peut-elle jouer dans les conflits communautaires, extrémisme violent?
Tout à l'heure, en commençant ce débat-là, j'ai rappelé la rébellion qui a sévi aussi bien au Mali qu'au Niger. Nous avons tous vécu ces moments de la rébellion. Et il y a eu ce qu'il y a eu, parce que pendant des années, vous savez, au moins le bilan, il est quand même ce qu'il est, en macabre et tout le reste, avec du temps perdu inutilement et tout, pour qu'après qu'on s'arrête pour parler de réconciliation, parce que d'où l'un des thèmes de la réconciliation, parce que cette réconciliation, c'est ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, si on revient à cette culture, pour que chacun, dans sa sphère, il va se dire que ah, chez moi, voilà ce qu'on fait souvent pour régler telle ou telle question. On n'a pas besoin de prendre des armes et tout, parce que dans notre culture, voilà ce qu'on nous a appris. Je pense que cette culture, elle a un rôle important à jouer pour éviter ces conflits communautaires et tout le reste. À mon sens.
D'accord. Quels sont les mécanismes existants auparavant qui gèrent les cas de conflits en Afrique?
Je vous ai cité tout à l'heure la charte du Mandé. ce sont des engagements. Dans nos us et coutumes, nous pouvons puiser suffisamment de ressources à même de permettre de gérer tout type ou toute forme de conflit. Jusqu'aux conflits armés les plus sévères possibles. On peut les régler en nous appuyant sur nos valeurs culturelles. C'est justement la culture comme médium, la culture comme moyen, la culture comme argument pour justement aller vers l'autre. Dans notre culture, que l'on soit du Soudan, que l'on soit du Dahomey ou que l'on soit d'ailleurs, il y a un élément central, c'est très souvent l'oubli de soi pour la collectivité. La culture africaine, le moi haïssable, nous l'avons haï depuis très longtemps. L'Africain ancien, l'Africain traditionnel, l'Africain enraciné dans sa culture, lui est toujours attiré par le collectif. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Qu'est-ce qui peut amener ma communauté le plus loin possible? C'est ce qui fait que dans nos villages, jusqu'à présent, les gens ont du mal, dans nos villages, je dis bien, je ne parle pas en milieu urbain, ont du mal à bâtir en hauteur nos bâtiments dans les villages. Ils restent toujours à des maisons basses. Qu'est-ce qui nous interdit de bâtir en hauteur? Parce qu'on ne veut pas violer l'intimité de l'autre. On ne peut pas, on ne souhaite pas découvrir ce que l'autre cache. La culture, comme, j'allais dire, un guide qui nous impose un certain nombre de règles, un certain nombre de rites immuables, respectés, nous permet de vivre dans tous les milieux. Pourquoi nos anciens, ceux qui ont les premiers immigrés dans les pays occidentaux ou les pays du monde entier, en tout cas, pourquoi n'ont-ils pas rencontré de difficultés? Parce qu'ils ont su prendre sur eux jusqu'à l'humiliation, quelquefois, parce qu'ils avaient un objectif. La culture doit nous permettre d'atteindre un objectif qui est de faire la paix d'abord avec nous-mêmes, puis avec les autres avec les enfants, avec les femmes, avec les personnes âgées. Et ça, c'est la culture qui nous l'enseigne, pour ne pas dire qu'il nous l'impose. Il y a des limites que je ne pourrais pas franchir avec ma sœur. Par contre, je peux aller où je veux avec mon frère. Vous qui êtes plus jeune que nous, on n'acceptera pas d'aller jusqu'à certaines choses que l'on ne pourrait pas dire ou faire ensemble. Vous voyez donc que la culture balise le chemin, dresse aussi des barrières pour permettre aux uns et aux autres de garder leur identité, mais de s'ouvrir au monde. Et l'initiation culturelle conduit à l'initiation cultuelle. Parce que les cultes que nous pratiquons aujourd'hui sont aussi des cultes importés pour la plupart. Que ce soit l'islam qui est arrivé ou le christianisme arrivé dans le continent, mais nos grands-parents, nos aïeux, avaient une relation avec leur créateur. Ce sont des éléments culturels et cultuels qu'il faut réviver, faire revivre, justement, revivifier donc, et savoir qui sommes-nous pour pouvoir chercher des solutions dans cette culture-là et aller vers ceux qui, avec qui nous sommes obligés de cohabiter parce que nous pratiquons le même culte, même si nous n'avons pas les mêmes origines. D'accord ? Nous qui sommes d'origine africaine, nous pratiquons le culte musulman ou catholique ou chrétien ou bouddhiste ou même juif avec d'autres qui n'ont pas les mêmes origines que nous.
Vous avez parlé des villages. Quel rôle jouaient les chefferies villageoises et les tribunaux coutumiers pour gérer les conflits et prévenir les conflits communautaires?
Les villages dans l'éducation, d'abord, c'est à ce niveau-là que ça se passait. Et il y a des épreuves telles que les épreuves de l'initiation, les rites d'initiation pour les garçons, aussi pour les filles. D'accord ? C'était des occasions au cours desquelles un certain nombre de valeurs étaient inculquées aux jeunes citoyens africains. à qui on apprenait un certain nombre de choses. Comment se tenir, comme par exemple ce dont je venais de parler tout à l'heure. Amadou Ampateba en parle très très bien. Il vous parle des 7 ans, des 14 ans, des 21 ans et au-delà. Pour dire que ce sont des classes d'âge différentes que l'individu, que le jeune homme ou que la jeune fille traverse durant sa vie, qui fait qu'à un moment donné, on peut, lorsque c'est une fille, on peut la donner en mariage. Lorsque c'est un garçon, on peut maintenant lever la main sur lui ou le chicoter. Lorsque c'est un adulte, on peut maintenant lui donner la parole pour qu'il parle au nom du village. Parler au nom du village, dans nos traditions, n'aurait pas été permise à ce jeune homme, pas encore initié, fût-il le plus diplômé du monde.
On me fait signe qu'il nous reste 4 minutes, on va essayer de faire le tour de table. Madame, en quoi les mécanismes, il a parlé tout à l'heure de l'histoire de son cousin à l'extérieur, en quoi les mécanismes à caractère social, notamment le cousinage, la plaisanterie, parviennent à jouer un rôle capital dans la gestion des conflits?
Les cousinages à plaisanterie ou d'autres mécanismes. Le rapport à l'hôte, le rapport à l'étranger, par exemple. Le cousinage à plaisanterie permet de ne pas rentrer dans la violence. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on peut tout se dire. Verbalement, on peut se chahuter, mais ça évite l'acte violent. Et donc, c'est une forme d'exutoire. Et une fois que l'exutoire est là, eh bien, ça apaise. Mais en échange, ça crée aussi des tabous. Mais ces modes de fonctionnement de cousinage font que quand deux communautés où deux personnes sont en conflit, il y a toujours un tiers qu'on doit écouter et à qui on ne peut dire non. Et ce tiers va toujours intervenir pour éviter le conflit. Et ça existe pour toutes les communautés et pour toutes les personnes. Ce qui fait qu'il y a toujours un médiateur. Tous les mots qui existent actuellement sont dans nos traditions. La médiation existe, la diplomatie a existé, la législation a existé, Kurukan Fuga n'est rien d'autre qu'un édit. Donc, tout a existé simplement avec une autre langue. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une réappropriation de la langue qui est importante. Nous parlons effectivement actuellement là une autre langue. Ce n'est pas à moi. Nous l'utilisons. Mais nous nous permettons de l'utiliser parce que chacun de nous sait qu'il parle sa langue et qu'il maîtrise cette langue. Cela ne nous empêche pas d'utiliser cette langue pour nous faire comprendre. Donc, la langue, il s'agit aussi de redire les choses avec nos langues pour faire comprendre que la culture est avant tout savoir-être et avant tout savoir-faire. Oublions par exemple ce terme de culture et remplaçons-le éventuellement par c'est du savoir-être et du savoir-faire. Et là, je pense que ça sera mieux compris.
Nous allons donner le dernier mot à Abdoulaye Tchemogo. Comment inculquer nos valeurs traditionnelles qui viennent d'être citées à la future génération pour rester attachée à ces valeurs cardinales?
Ok. Et tout à l'heure, madame a évoqué cette question de parenté et de plaisanterie, non? Le cousinage à plaisanterie. C'est pour vous dire que nous, au Niger, c'est devenu un événement. On a institué ça en un événement et chaque année, il y a la parenté à plaisanterie, comme on dit. C'est un événement national qui se déroule dans une région du Niger où toutes les autres régions convergent dans cette région pendant une semaine où les gens sont ensemble et rappeler souvent certaines blagues culturelles, ce qui se dit dans telle région, vraiment c'est très intéressant et je pense que depuis quelques années qu'on le faisait, ça a permis justement de régler beaucoup de problèmes où les gens savent que nous sommes les mêmes, nous sommes
tous des frères et parents. C'est juste peut-être toi tu es de telle région parce qu'il y a eu ceci et cela, mais nous sommes tous les mêmes à travers cet événement. Donc ce qui fait que nous au Niger on a pris de l'avance vraiment par rapport à ce, ça je le dis, on a pris de l'avance par rapport à cette situation depuis longtemps pour pouvoir régler le problème, et ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes qu'on a connus par le passé.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui avait pour thème la paix, la réconciliation et le développement par la culture. Est-ce possible? Et nous étions avec Abdoulaye Kemogo, panéliste venu du Niger dans le cadre de la 24e édition du Forum de Bamako, Pape Mamadou Kabo, panéliste venu du Sénégal, et Nakana Diakité, consultante en diplomatie culturelle. Ce débat vous a été présenté par Imirana Kilomaiga et réalisé par Mariam Koulibaly. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.